Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement, visite ce matin d'un éco-hameau bigarré.
Donc, au départ, j'étais tout seul. Nicole continue à travailler à Paris. Elle m'a rejoint au bout d'une année avec mon fils cadet. Nous avons commencé à chercher par des petites annonces dans des journaux un peu branchés, écolos, donc des associés. Et donc on a vu beaucoup de gens et on a trouvé donc assez rapidement donc des gens qui étaient prêts à s'investir. Et donc c'est comme ça que Benoît et Klaus ont été recrutés.
Par petites annonces.
Par petites annonces, oui. Par petites annonces et... Donc, assez rapidement, on a réalisé que ça pouvait marcher. Ils sont venus habiter donc, avec nous dans la petite maison. Donc là, on a eu une période où on était tous ensemble. Quoi, et ça s'est bien passé. Depuis, le recrutement de nouveaux associés se fait, alors là, pratiquement par le bouche à oreille. À partir de là, donc, on a commencé, puisque la vente d'une maison qu'on en avait dans la région parisienne donc, nous avait donné un financement qui permettait donc, d'envisager des constructions dans le Limousin. Donc on a commencé à construire la maison en paille qui devait être la maison commune autour de laquelle donc, se structurait la collectivité. Et puis on a commencé à construire donc, les maisons individuelles. Il n'y a pas eu de difficultés pour obtenir un certificat d'urbanisme. Je pense que là, la DDE, on est tombé sur quelqu'un de compréhensif. On est tombé aussi sur une municipalité qui nous a aidés.
On va faire le point, Christophe Noisette. Quoi de neuf sur le front des OGM dont vous vous occupez depuis maintenant une bonne dizaine d'années, 11 ans ?
Quoi de neuf ?
Au sein d'InfoGM ?
Il y a toujours cette histoire de moratoire français. Donc là, il y a eu l'avis de l'avocat général qui dit que la clause Oscar française n'est pas légale. Donc ça, c'est au niveau de la justice européenne. Puisqu'en fait, Monsanto avait attaqué cette clause de sauvegarde en France auprès du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, pour juger sur le fond cette question-là, a posé quelques questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice a considéré que la base légale sur laquelle la clause de sauvegarde avait été prise n'est pas bonne, et donc l'avocat général a conseillé à la Cour de conseiller au Conseil d'État d'annuler la clause de sauvegarde. Après, ça c'est vraiment de la procédure, c'est vraiment du formel. Et ça ne change rien aux arguments scientifiques, et ça ne change rien à l'opposition citoyenne sur cette question-là. C'est-à-dire que si le Conseil d'État annulait la clause de sauvegarde parce que ce n'était pas la bonne base juridique, le gouvernement français, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture, pourrait prendre la même clause de sauvegarde sur la bonne base juridique. Mais bon, ça fait un petit pataquès, et ça relance le débat, et Monsanto est content, et bon. Mais voilà, on est vraiment sur des luttes très très formelles, très procédurielles en ce moment, parce que il y a un blocage. Après, au niveau européen, toujours, il y a cette fameuse évaluation de l'AESA. L'AESA, c'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Et donc, elle propose une nouvelle façon d'évaluer qui est géniale. Il y a plein de choses dedans. Sauf qu'il y a une petite ligne qui court-circuite tout ça. C'est-à-dire qu'ils parlent d'impact à long terme, ils parlent d'impact socio-économique, de tout ce que les associations ont voulu depuis 10 ans. Mais il y a une petite phrase qui met « Si le maïs transgénique est équivalent en substance au maïs conventionnel, tout ceci n'est pas à faire. » Et on se retrouve sur la législation américaine. Donc c'est-à-dire qu'ils ont écouté pour remplir leur papier, c'est très bien, c'est génial, mais une petite phrase fait que l'équivalence en substance peut passer au niveau européen. Et ça, c'est vraiment un gros, gros problème. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus d'évaluation du tout. Hein, c'est pas même celle d'avant. C'est qu'on revient, revient au système américain. Donc ça, c'était pour le côté un peu évaluation. Bon, mais après, il y a d'autres choses, plus positives. Hein. Il y a la Bulgarie qui a rejoint le concert des nations qui a interdit le maïs MON 810. Donc il y a l'Autriche, la Hongrie, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, la Grèce et la Bulgarie. Donc ça commence à faire un petit peu de pays qui se posent des questions sur ce maïs-là. Donc le maïs MON 810, il est vraiment très partagé entre les partisans dans l'Union européenne et les opposants au niveau des États.
Ce qui est sûr, Christophe Noisette, c'est qu'en 11 ans, vous êtes devenu un expert tous azimuts sur ces questions des OGM. Tous azimuts parce que vous avez l'expertise juridique, vous avez l'expertise scientifique, vous avez les connaissances génétiques, politique. Enfin, c'est assez impressionnant de voir que ce travail que vous menez au sein d'une association vous a conduit à élargir et à vous intéresser à toutes sortes de domaines. Je pourrais rajouter celui du lobbying dans lequel vous commencez à posséder là aussi une véritable expertise.
On a une expertise collective et après, individuellement, on en profite. C'est-à-dire que, sur la question de la clause de sauvegarde, ce que je racontais au début de l'interview, j'ai discuté beaucoup avec Pauline, qui est la juriste InfoGM, et en une journée de discussion, on a fait l'article ensemble parce qu'elle vient d'arriver, donc je l'ai accompagnée. Et ben voilà, hop, ça y est, les connaissances ont été acquises dans cette discussion-là. C'est vrai qu'en 11 ans, je suis parti, on a monté InfoGM au tout début. Moi, j'étais une petite main, c'était les gens du conseil d'administration qui faisaient le gros du travail, hein. Moi j'écrivais, puis je faisais tout valider, tout vérifier. Ben maintenant c'est moins le cas. C'est pour ça qu'on appelle ça une veille citoyenne, c'est qu'on n'est pas des experts techniques et hyper précis sur tous les points. Il y a des gens qui sont meilleurs sur chaque point. Mais je pense que là, le fait de relier ces points ensemble, là on est dans les gens qui le font bien et qui aiment le faire. Voilà.
Mais alors maintenant, si on parle du lieu où cette conversation se tient. On est dans un petit bureau, face à nous la verte campagne, à perte de vue. On est dans le Limousin, dans un éco-hameau dans lequel, Christophe Noisette, vous avez choisi de venir vivre, habiter et travailler. C'est-à-dire que tout ce réseau que vous venez de nous décrire, finalement, aujourd'hui, vous le côtoyez toujours, mais de plus loin, en tout cas physiquement.
Il est vrai que là, à Busset, dans le éco-hameau qui est dans le Limousin, c'est vrai que concrètement, je suis entouré de plus de vaches que de militants anti-OGM. Ça, c'est un fait, même s'il y a un réseau anti-OGM, mais il faut se déplacer. Donc bon, voiture, train, vélo, il faut se déplacer pour les rencontrer. Mais bon, je monte régulièrement à Paris pour des réunions, parce que c'est important, parce que c'est aussi une façon de maintenir le réseau vivant. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses par Internet, on peut faire les choses par téléphone, mais il faut se rencontrer. Et après, je profite de ma délocalisation dans une forme de sud-ouest, parce qu'on est, bon, bref, le Limousin, pour plutôt aller voir les gens du Périgord, les gens d'Angers, les gens de Vendée, les gens de Bordeaux, etc. Donc maintenant, je commence à avoir aussi un réseau qui a une empreinte géographique un petit peu différente. C'est-à-dire que je me suis relocalisé à tous les niveaux, dans mon travail et dans ma vie. J'avais besoin d'avoir des racines, et le fait de m'impliquer dans un co-hameau, de construire ma maison, enfin pas tout seul, hein, mais de participer à la construction de ma maison en paille, ça participe de mon enracinement dans un projet et dans une zone géographique.
Une maison en paille ?
Une maison en paille parce que c'est une maison qui a beaucoup de bénéfices économiques, au niveau de la construction, au niveau de l'écologie et au niveau du confort. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Hein. J'ai visité plusieurs maisons en paille avant de me décider pour cette technique-là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Agréable au niveau du confort, tout simplement parce que ça règle beaucoup l'humidité dans la pièce, par exemple. Bon, après, il faut gérer ça avec des enduits terre qui absorbent l'humidité, qui la relâchent à d'autres moments. Il y a toute cette gestion de l'humidité dans la pièce qui est intéressante. Il y a une atmosphère, c'est dur à décrire à la radio, mais il y a vraiment une atmosphère particulière. Et on se sent bien, ça chauffe vite. On va mettre un poêle à bois pour faire le complément, mais on va avoir 35 cm de paille dans le plancher, dans les murs et dans la toiture. Donc on est vraiment entouré de paille et ça fait vraiment 2 500 euros quoi, pour les murs et l'isolation. Bon, après, c'est pas le prix de la maison, hein, y a plein de choses qui vont derrière. Hein. Rien que le terrassement, rien que les fondations, c'est déjà des sommes qui sont un peu importantes. Mais mon défi, c'est de dire qu'on peut construire en se faisant aider, mais globalement en maîtrisant ce qu'on fait, pour pas trop cher, une maison de 60 à 70 mètres carrés pour une famille. Quoi. Et que c'est possible de le faire en un an pour environ 60 à 70 000 euros.
Vous vous êtes décidé pour la paille, Christophe Noisette. Vous êtes décidé aussi pour ce lieu-ci, Busset. Vous disiez, j'avais besoin de racines. Et c'est vrai qu'ici, on a un peu l'impression comme d'une famille, c'est-à-dire un peu hétéroclite, avec des gens qui sont à la fois proches, mais où personne ne se ressemble vraiment.
Ah, c'est sûr que c'était un critère principal pour m'installer dans un lieu collectif, c'était la mixité, l'hétérogénéité. On a quitté Berlin avec Charlotte, mon amie, où on vivait dans des maisons qui étaient consanguines culturellement. Et c'était très intéressant, hein. Vraiment, on a passé 3 ans là-bas, on a appris beaucoup de choses sur la vie en groupe. Mais il y avait vraiment une culture jeune, alternative, entre punk et baba cool. Bon, il y avait selon les maisons dans lesquelles on a vécu, mais on sentait vraiment qu'ils étaient très très proches les gens. Il n'y avait pas de différence d'âge et on s'est dit, ah, ça ne fait pas société. Donc on a dit, bon, il faut qu'on cherche. Et on s'est promené, on a visité des lieux. Bon, il y avait beaucoup de lieux, si on n'était pas agriculteur, bon, ce n'était pas pour nous. Et on cherchait aussi un lieu donc mixte et un lieu où je puisse aussi travailler et donc être connecté sur le réseau ferroviaire rapidement. Ça faisait beaucoup de critères, hein, et Busset a correspondu à tous ces critères-là. Voilà. Et la mixité, elle est à tous les niveaux aussi. Elle est au niveau de l'âge, donc ça va de... zéro, on va dire, hein, pour pas dire moins un, on va dire zéro à 71 ans. Ça, c'est extraordinaire pour une dizaine de personnes. Hein. Et au niveau social, au niveau des revenus, au niveau du monde culturel dont les gens sont issus, et ça fait que on est à l'aise parce que, justement, on peut rester comme on est sans se regarder trop juger parce que, justement, les gens sont différents. Donc, ils vont pas dire, ah bah, c'est... non, on est plus libre en fait dans l'hétérogénéité, j'ai l'impression, parce que on peut être soi-même entièrement, parce que les autres sont curieux de son soi, parce que il est différent. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment ça qui est fort. Et à la limite, je pense que ce serait peut-être pas mes amis si je les avais rencontrés dans un autre contexte, parce que c'est différent. C'est les gens avec qui je vis. Comme la famille, c'est pas les amis. C'est un petit peu curieux parce que les gens disent ah bah c'est tes amis. Ben non, pas complètement. Peut-être que ça va le devenir, mais les amis, c'est aussi autre chose. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un subtil mélange entre de l'amitié, de la famille et du projet. Et je crois que ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'on s'entraide, on a des projets et une vision globale qui est la même, mais avec plein de ramifications. Et ça fait un bel arbre à la fin. Et le tronc commun, bah, c'est ce projet-là, et chacun après va vivre sa petite ramification pas dans son coin, parce qu'on est tous ensemble, mais un petit peu dans son coin quand même. Parce que c'est pareil, ici c'est pas une communauté, c'est un collectif. Donc chacun a son lieu où il peut poser ses basques en toute tranquillité. Et dès qu'il a envie de voir du monde, c'est facile. On fait 100 mètres et on est dans la maison commune. Et on partage des repas. Et si un soir, on ne veut pas partager un repas, ce n'est pas un problème. Donc c'est souple. C'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est cette souplesse du mode de vie. On n'a quasiment pas de règles. Enfin, si, on pourrait en trouver. Genre, il y a un jour de cuisine par semaine. Bon, ça, c'est une règle. Pas très contraignante. On a quelques... Bon, on partage un petit peu de l'argent, pas beaucoup. On a l'espoir d'en partager plus, mais il faut y aller progressivement. Si on va trop vite, ça va se casser la figure, hein, ça c'est très clair. Voilà, mais il n'y a pas de règle, c'est souple, c'est chouette.
Klaus Kiefer, qu'est-ce que c'est que cette revue qui traîne sur votre table, Déshabillez-moi ?
Déshabillez-moi, c'est notre bulletin semestriel d'une association des tondeurs de moutons, une association sur le plan national français, mais on a aussi des membres, par exemple de Belgique ou Suisse, Espagne, voilà, on est 250 membres, Il y a à peu près 200 tondeurs dans ces 250 membres. Après, il y a aussi quelques membres, c'est des associations de transformateurs de laine ou des petits ateliers artisanaux de transformation de laine.
Tondeur de mouton, c'est une activité parmi d'autres ou c'est un métier?
Mais ça peut être, c'est un métier, c'est certes. Puisque c'est quand même la première intervention dans la chaîne de transformation lainière. Quand on a la possibilité de faire des expériences professionnelles dans des pays vrais producteurs de laine, comme l'Australie ou Nouvelle-Zélande ou Afrique du Sud, on ressent bien une structure, une organisation de chantier très professionnelle qui dit grand sur les métiers de tondeur.
Vous dites vrai pays parce que la France est un faux pays de...
Non. Non, je ne veux pas dire ça, non. Évidemment, toute race de brebis maintenant, sauf il y a quelques races de brebis qui ne portent pas la fibre laineuse, mais toute autre race de brebis est portée à être tondue une fois par an parce que l'homme a créé une poussée permanente. Il n'y a plus de mue comme sur les animaux sauvages ou sur certains animaux qui sont tenus l'hiver dehors où il y a un poil qui pousse pendant l'hiver et qui tombe avec une mue naturelle au printemps. Le mouton, ça fait plus ça. C'est créé par l'homme, sélectionné par l'homme pour faire une poussée permanente. Alors il faut tondre cet animal chaque année parce que c'est important pour son métabolisme, pour sa santé.
Et c'est là que, au-delà des races de moutons qui sont choisies, il y a aussi tout le savoir-faire du tondeur. Vous avez parlé de ce savoir-faire du tri. C'est tellement important qu'il y a une pratique assez curieuse. Elle fait un peu surannée, en fait. La pratique des concours de tondeur de moutons qui reste extrêmement vivace.
Oui, bien sûr. Bon, c'est la tonte, il y a un grand tondeur néo-zélandais qui a dit que c'est une science sans scientifique, mais c'est la tonte justement à cause des besoins d'une récolte quand même précise pour la transformation. C'est très intéressant, ou c'est même nécessaire de récolter les mèches entières en longueur et homogène. Alors du coup, le tondeur, il est mené à couper vraiment bien la laine au ras de la peau. Alors et ça, c'est évidemment avec un corps d'un animal, c'est pas évident du tout. Alors du coup, il faut apprendre une technique qui permet aussi aller assez vite, parce que on veut pas perdurer le stress ni pour la brebis, ni pour le tondeur, ni pour l'éleveur sur le chantier. Du coup, ça amène à des rencontres de tondeurs qui se mettent en concurrence un peu. Sur chaque chantier, on se met un peu en concurrence aussi. Mais c'est aussi la fête.
Vous circulez beaucoup pour pratiquer votre sport ?
Alors c'est très intéressant quand même de faire des expériences aussi à l'étranger, puisque certains pays c'est considéré comme la Mecque de la tonte. Voilà, alors il faut y passer, c'est essentiel pour les connaissances justement, pour faire cette expérience d'un pays qui récolte la laine encore comme revenu principal de l'éleveur au vin. Voilà, c'est l'Australie, c'est le cas. Et puis, on se ressent, on apprend ce qui est important à la tonte.
Là, vous avez réduit cette activité.
Oui. Depuis une vingtaine d'années, j'ai réduit à peu près. Je fais toujours la tente à peu près à mi-temps sur l'année. La tente peut être un métier complémentaire aussi pour un éleveur de moutons, pour un berger qui travaille plutôt en transhumant. C'est très 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 intéressant pour lui de faire ce métier pendant une saison.
En ce moment, vous avez une autre activité qui est plus qu'un complément. Vous êtes en train de construire une maison, la vôtre.
Oui. Oui, bon, ça c'est un rêve d'enfant aussi encore, parce que je suis passé par une formation d'urbaniste après ma formation scolaire, quoi. Et puisque après je suis parti dans l'élevage et puis dans la tente. Du coup, maintenant, ça me sert quand même à réaliser un projet de construction neuve d'une maison, pendant laquelle je fais pas tout moi-même, mais une grosse partie. Et puis, j'ai participé à d'autres parties, comme la charpente, puisque le bois aussi m'intéressait toujours le plus dans la construction. Je pense que c'est là d'où vient aussi l'amour pour la laine. C'est une matière naturelle. Voilà, le bois, la laine. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et qui me touche le plus à intervenir.
Et vous avez choisi pour réaliser ce rêve d'enfant l'éco-village de Bussey où vous vous installez donc. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet endroit, ces gens, c'est le lieu, c'est le projet lui-même?
Oui, c'est le lieu d'un côté. Bon, après évidemment les amis, on est devenus amis, on se connaissait pas depuis longtemps. Mais c'est après le projet il évolue. Et c'était un certain projet au départ, maintenant ça devient un autre projet ou peut-être plus coopératif. C'est intéressant, ça me touche beaucoup parce que déjà pendant mes études d'urbaniste, j'étais aussi en cohabitation et puis en vie communautaire d'étudiants. Maintenant, dans le contexte actuel, économie, etc., et société tout court, bon, ce projet d'un éco-village, ça m'appelle beaucoup. À la campagne, bon, c'est moi qui s'occupe d'une partie de la partie agricole, élevage des terres. Alors, c'est un peu dans la continuité de ma vie professionnelle ou ma vie tout court que j'ai vécu jusqu'alors, quoi.
Répétez-moi cette phrase, Alain d'Orange.
L'enfer, c'est les autres, mais il n'y a pas mieux.
C'est pour ça que vous vous retrouvez ici à Bussey, dans cet éco-hameau. Et quand je dis vous vous retrouvez, vous êtes l'initiateur de cet éco-hameau.
Oui, c'est vrai que je suis l'initiateur et qu'il y avait deux aspects pour la création de cet éco-hameau. Il y avait un objectif écologique, donc réduire notre empreinte écologique sur l'énergie, sur l'eau. Et puis l'autre, c'était le vivre ensemble, quoi, la solidarité. C'est pas d'ailleurs indépendant de l'objectif écologique, mais c'était pour moi l'aspect le plus important. J'étais moins intéressé par les constructions écologiques que par le vivre ensemble.
De quelle manière est-ce que c'est lié ?
Ben, c'est lié par le fait que quand on peut faire appel à des gens qui vivent à proximité pour donner un coup de main pour n'importe quoi, eh bien, ça permet donc d'éviter, par exemple, de recourir à des rapports marchands. Et je veux dire, il y a une économie qui se fait à travers cette solidarité immédiate, quoi.
Alors, à quel moment et comment est-ce que vous avez décidé, finalement, de mettre en pratique ce que vous êtes en train de nous dire là, Alain Dorange ?
Le fait que je faisais partie de la commission donc, Énergie des Verts, et que j'étais amené donc à faire des tournées de conférences, d'échanges un peu à travers la France pour expliquer ce qu'il faudrait faire, les scénarios de sortie du nucléaire et tout ça. Il y a eu un moment où j'ai eu un peu la nausée, disons, de ce baratin, quoi. Et que je sentais de plus en plus fort le décalage entre ce que je disais et puis ce que je vivais. Et donc la nécessité de mettre un peu plus d'accord, disons, entre les deux, quoi. Voilà, donc je pense que c'est ça qui a été quand même le moteur déclenchant au départ. Et puis la volonté également de ne pas faire ça tout seul, mais de faire ça en collectif, dans un collectif.
Ce collectif, il n'existait pas, il fallait le créer.
Oui, ce collectif n'existait pas. Et au départ, donc, on a essayé de constituer un groupe avec des amis de la région parisienne, donc, qui étaient à l'initiative du projet. Donc on a commencé assez rapidement, après avoir rédigé une charte assez sommaire, donc qui rappelait les objectifs essentiels, réduire l'empreinte écologique, vivre collectivement, être ouvert aux autres, enfin des choses assez générales. Donc on a commencé à chercher un lieu. Et puis au départ, on voulait évidemment un lieu agréable, donc plutôt vers le sud. Et puis le prix de l'immobilier nous a poussé aux fesses progressivement vers le nord pour atterrir dans le Limousin, qui était, je pense, à l'époque, un des endroits de France où l'immobilier était le moins cher. On aurait pu atterrir en Creuse aussi, mais on s'est arrêté au Limousin. Dans la genèse de ce projet, on s'est aperçu par la suite, en recevant des gens qui, eux aussi, avaient des projets semblables et qui venaient chercher des conseils auprès de nous, que beaucoup de groupes perdaient énormément de temps à vouloir structurer leurs projets en essayant de régler des problèmes qui ne se posaient pas encore et en essayant d'y trouver des solutions. Et donc ils avaient au départ un dynamisme important, une joyeuse excitation autour de qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, de fantasmer l'avenir. Et puis en réalité, leur dynamisme s'enlisait dans ces discussions. Et au moment où il fallait passer, où il fallait passer à quelque chose de plus concret, trouver un lieu et tout ça, on s'apercevait que là, des difficultés surgissaient, complètement inattendues, parce que savoir si on préfère la mer, la montagne, la plaine, tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'idéologie, et que ça suffisait pour faire exploser les groupes.
Alors, c'est-à-dire que plus on tente de maîtriser, et plus on risque de se briser.
D'une certaine façon, vouloir répondre à des questions qui ne se posent pas encore, c'est dangereux. Alors à la fois, il ne faut pas être naïf, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faut penser, des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes de structure, mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin et il faut laisser le réel, disons, investir votre projet et être prêt à accepter ce réel et à s'y adapter.
Et dans les faits, ça donne quoi ? Si on transpose sur l'histoire de Busset maintenant.
Ça veut dire que maintenant, on pensait au départ qu'il était important de faire un règlement intérieur, par exemple, pour préciser comment on allait régler les choses et tout ça. Rapidement, la réalité nous a montré que toutes les décisions qu'on avait prises étaient inapplicables et que donc il fallait se laisser porter d'une certaine façon, par les événements, et s'y adapter, et que c'était plus important que de vouloir maîtriser les choses, quoi.
Mais par exemple ?
Par exemple, pour le financement, comment on fonctionne pour organiser, par exemple, l'achat de la nourriture, des détails comme ça, quoi.
Mais c'est pas un détail.
Oui, c'est pas un détail, mais je veux dire, il faut avoir un niveau de confiance entre les gens suffisant pour que on puisse à chaque fois aborder les difficultés avec un réel désir de trouver une solution. Et si cette confiance existe, Je veux dire, il n'y a pas de problème qui n'est pas de solution. Quoi.
Mais oui, mais parce que ça non plus, ce n'est pas donné d'avance. Vous n'étiez pas tous des compagnons de route ou de vie de 30 ans.
Non, d'autant que on a voulu avoir une diversité générationnelle et puis une diversité également d'origine. Donc on a buté tout de suite sur le fait que les vieux avaient de l'argent et les jeunes n'en avaient pas. Donc il fallait pouvoir trouver des solutions d'hébergement qui puissent convenir à des jeunes. Donc une solution trouvée a été donc de construire un studio, financé par les vieux évidemment, pour pouvoir accueillir en sous-location plutôt des gens plus jeunes, ou de construire des habitats légers, donc une cabane en bois pour permettre ça, quoi. Donc à partir de là, les gens qui sont venus avaient un niveau social et avec des revenus qui n'étaient pas du tout les mêmes. Entre moi qui touche une retraite de professeur confortable et puis Benoît qui travaille à mi-temps avec un demi-SMIC, c'est sûr que il y a une différence importante et que il faut être attentif, je dirais, dans les relations financières à ce que tout le monde y trouve son compte, quoi.
L'idée n'est pas non plus d'aplanir complètement ces différences.
Ah non, non, moi je pense qu'il faut rester comme ce que l'on est, quoi. Je vais pas donner ma retraite à... Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que pour la vie sur place, on peut imaginer que l'on ait une contribution proportionnelle, disons, à nos revenus, et qu'il y ait donc une caisse commune à partir de laquelle donc, le fonctionnement de l'Equamo se fait. Ceci dit, c'est un projet. Actuellement, ça n'est pas réalisé. Voilà. Mais c'est une réflexion qu'on a actuellement.
Vous avez une réflexion aussi sur la propriété. Vous avez dit tout à l'heure louer, plus exactement sous-louer.
Oui, parce que comme on est structuré actuellement en SCI, il se trouve que c'est la SCI qui est propriétaire de tous les bâtiments et de toute la propriété, et que les associés de la SCI ne sont que locataires. Mais ils ont la possibilité également de sous-louer. Actuellement, donc, on s'aperçoit que c'est une structure qui est très fragile. Le départ d'un associé qui aurait fait des investissements importants, met en danger, hein, puisque il est très difficile de trouver un successeur. Et les associés restants n'auront pas les moyens de racheter donc les participations de la personne qui s'en va. Donc c'est actuellement une structure qui est fragile et on est à la recherche là d'une structure mieux adaptée, mais je pense qu'elle est à inventer pour l'instant.
Benoît, c'est pas la première fois que vous découpez le cochon.
Non, c'est pas la première fois, mais il y a toujours un peu de doute qui est là sur les morceaux et dans la transformation, il y a toujours une part d'incertitude. Ça reste un apprentissage que j'ai fait avec le père d'un bon copain qui m'a montré un petit peu comment il faisait, des habitudes familiales. Et puis maintenant, j'essaie de me débrouiller tout seul. Et c'est pas toujours facile.
Alors, il y a plus de plaque là, Christophe ?
Non.
Ah si, elle est juste là devant moi.
Comment est-ce que vous êtes arrivé ici, Benoît ?
Ça a été un petit peu le hasard. J'étais depuis 1 à 2 ans... en recherche d'un lieu pour lancer une activité professionnelle avec mes moyens limités.
Qu'est-ce que c'était cette activité ?
Voilà, je me suis installé en producteur de purins, d'orties, consous, de prêles et fougères. Quand je me suis installé, je savais bien que les purins étaient interdits à la vente. À ce moment-là, il n'y avait pas de législation qui fixait des peines de prison ou d'amende. A priori, d'après une juriste, tout ce que je risquais, c'est qu'on m'oblige à arrêter mon activité. Bon, je me suis dit, ça mange pas de pain. Je ferai autre chose si je dois arrêter, si les autorités m'obligent à arrêter. Et puis cette année-là, la loi d'orientation agricole de 2006 a prévu 75 000 euros d'amende au maximum et 2 ans de prison pour toute personne qui fabrique, possède, donne, vend, utilise un produit non homologué dans l'agriculture. J'ai envie de me poser ici, de m'installer là, d'avoir mon activité professionnelle, mais aussi ma vie privée sur cet endroit-là. Et les choses se sont lancées comme ça.
La vie privée, c'est une petite cabane en bois que vous avez bâtie vous-même.
Voilà. Compte tenu de mes besoins qui sont limités, je suis plutôt adepte de la frugalité, de mes moyens aussi. Et ça m'a donné une expérience de tout faire moi-même de A à Z. Et maintenant, je suis en mesure de monter quelque chose de plus grand. J'ai aussi effectué des chantiers festifs de construction paille et d'ossature bois. Et voilà, je pense être en mesure de monter une maison pour une famille maintenant, suite à cette expérience-là. Et dans ce bâtiment, ce qui m'intéressait, c'est que ce soit entièrement démontable et qu'il n'y ait aucune trace de présence du bâtiment le jour où il y aura besoin de le démonter, pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas de fondation, c'est simplement des pneus posés sur le sol, grattés juste un petit peu du sable, et à partir de là, j'ai attaqué mon ossature bois dessus.
Et votre petite entreprise, elle en est où alors ?
Elle en est que depuis, j'ai cessé mon activité, pour diverses raisons, à la fois des raisons personnelles, des raisons où ça me monopolisait un temps phénoménal, et j'étais frustré de ne pas pouvoir me dégager plus de temps pour la vie du groupe ici. Et il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont écoulés. Et à un moment donné, j'ai bien vu qu'il allait falloir une décennie pour que j'arrive à me dégager un peu de temps, éventuellement avoir un associé, arriver à une structure qui permette d'être à temps partiel tout en étant en activité indépendante. Et tout seul, je n'ai pas trouvé la solution d'avoir un temps partiel. Et puis, j'avais besoin d'investir dans un bâtiment adapté pour la production. J'ai pas eu le culot d'investir les montants nécessaires dans un contexte juridique qui est toujours encore actuellement très flou et très compliqué. Et voilà.
Mais donc, comment est-ce que vous vivez maintenant ?
Maintenant, le hasard, encore une fois. Il s'est présenté à moi l'opportunité de passer mon permis de transport en commun et d'avoir ce temps partiel, d'emmener les enfants à l'école, donc de travailler un petit peu le matin, un petit peu le soir, d'avoir mes journées de libre pour ici. Pour l'instant, ça me convient tout à fait. Ça va durer combien de temps, je ne sais pas, jusqu'à la prochaine opportunité que j'aurai envie de saisir.
Professeur, président de la commission énergie des Verts.
Dans quelques années.
Aujourd'hui retraité, comment est-ce qu'on occupe son temps dans un éco-hameau du Limousin ?
Déjà, j'ai en charge très précisément les jardins. À partir du printemps, il y a beaucoup de travail. Puis l'hiver, il y a l'entretien. C'est déjà une occupation qui est presque du plein temps. Et puis par ailleurs, je suis gérant de l'éco-hameau. Donc il y a tout le travail de comptabilité, et comme on est dans la phase de construction, les contacts avec les gens qui œuvrent sur place, les discussions pour les devis, tout ça. Donc c'est voilà, ça suffit à mon bonheur.
Vous parlez du jardin, vous parlez des maisons des autres, vous parlez pas de la vôtre, Alain Dorange.
Les maisons qu'on a voulu construire, on voulait une ouverture à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voulait que quelque part ça puisse être des maisons que l'on montre et dans lesquelles les gens puissent trouver de l'inspiration ou des solutions aux problèmes qu'ils avaient. Donc on a voulu faire des maisons dans lesquelles les gens puissent s'identifier, des maisons qui ressemblent à ce qu'ils connaissent. On a des maisons qui sont, je trouve, un peu grandes. Donc on essaye de partager un petit peu quand même ces maisons, d'y accueillir le maximum de gens pour... Mais c'était important pour nous de pouvoir recevoir beaucoup de gens, a priori pas très branchés écolo et économie d'énergie. Et c'est vrai que ça marche, ça marche. Les gens viennent, trouvent que c'est beau, et donc ça joue, ça peut leur donner envie de faire pareil ou de s'inspirer, disons, des solutions qui ont été trouvées, quoi. Donc c'était un choix qui a été fait au départ, mais un choix coûteux. Alors il se trouvait qu'on avait, on a eu les moyens, en tout cas deux d'entre nous avaient les moyens de faire ça. Mais je le regrette pas, quoi.
Qu'est-ce que vous faites, Igor ?
Je suis en train d'affûter une tronçonneuse, une chaîne de tronçonneuse.
C'est votre métier ?
Je suis charpentier, ouais. C'est un outil qu'on se sert, quoi.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à Bussey ?
Ça fait deux ans et demi, j'habitais dans la région nantaise. Et j'étais déjà branché sur les projets d'habitat collectif et j'avais envie de changer de région. Du coup, je suis parti un petit peu comme ça, ma voiture, mes affaires. Et puis, je suis parti, j'ai cherché, je voulais m'installer dans le coin pour apprendre un métier. C'était feuillardier.
Qu'est-ce que c'est ça ?
Feuillardier, c'est ceux qui font des cercles en châtaignier pour des tonneaux. C'est pour les grands chais et tout ça. On met ça autour des barriques, en plus des cercles métalliques. Donc voilà, et du coup, j'ai jamais appris, mais du coup, j'avais vu quelques contacts et j'avais vu sur un reportage sur le net Bussey. Et donc, du coup, je suis arrivé un jour comme ça par hasard. Je me promenais, j'étais pas loin d'ici. Et j'ai rencontré Alain et Nicole, et ça s'est fait comme ça. Ils m'ont donné le contact d'une maison où j'étais en location là avant. Et du coup, là, je suis arrivé. Avec le temps, ça s'est fait. Je suis venu, j'ai été salarié ici pour bosser. Et du coup, avec le temps, vu que j'étais branché habitat collectif, ça s'est fait naturellement, quoi.
Et cette vie en collectif ?
Cette vie en collectif, c'est un apprentissage de tous les jours, même humainement, c'est hyper intéressant, quoi. Moi, c'est ce côté-là qui me passionne, tout le côté humain. Tout ce côté relations humaines, tout ce qui pose l'interaction entre les personnes, les systèmes de communication qu'on a entre nous, quoi, parce que ça nécessite une certaine communication pour pas vraiment des problèmes, mais tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, ce qui peut se passer pour les gens qui sont en couple, ils voient bien, sauf que là, nous, on est 10 à habiter sur le lieu, et bientôt beaucoup plus, et en plus avec des familles, avec des enfants, donc ça nécessite encore d'autres problèmes, et puis il y a toute la gestion à côté, quoi. Pour que l'humain, ça peut être une petite chose qui fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, des fois, donc avant que ça arrive à ça, faut délier, et c'est ça qui me passionne, je trouve ça hyper intéressant. Puis on s'enrichit entre nous, quoi. Et puis on apprend à se connaître avec le temps. Moi, c'est ce qui me passionne. Et puis quand t'as un problème, là je me suis retrouvé, j'ai eu un accident du travail, je me suis retrouvé, je pouvais très peu bouger. J'aurais été dans ma location, je pouvais pas me chauffer au bois, je pouvais pas me chauffer, j'aurais pas pu. Enfin tu vois, j'avais du mal à me coucher et tout, au moins là il y a toujours quelqu'un pour te filer un coup de main. Enfin, c'est un peu la deuxième famille, quoi.
Samuel Dorange, Alain et Nicole, les fondateurs du hameau de Bussey, sont vos parents. Vous êtes ici en train de travailler à la restauration de la vieille maison. Est-ce que vous avez l'intention, l'envie de vous installer ou bien est-ce que vous êtes de passage ?
Moi, tout d'abord, ça fait un certain temps que j'habite ici. Ça va faire 5 ans. Au début, j'étais pas spécialement très attiré par le collectif. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me correspond bien. Et donc ça, a priori, c'est quand même déjà un bon point pour pouvoir commencer à réfléchir sur le fait de s'installer ici. Après, moi, concernant mes possibilités d'un point de vue financier pour pouvoir m'installer ici, elles ne sont pas encore possibles maintenant, quoi. Donc j'habite toujours chez mes parents et j'ai fait une formation en fait, pour faire de la couverture dans le bâtiment. Pour pouvoir essayer d'avoir une activité régulière professionnelle.
Qu'est-ce qui vous inquiétait dans le collectif et qu'est-ce qui finalement vous plaît ?
L'aspect de l'intimité en tant que personne, je pensais que dans un point de vue collectif, c'était forcément qu'il fallait tout mettre en commun et que même l'intimité, même le rapport que tu peux avoir avec toi-même ou avec les autres, eh ben, il est forcément avec tous ensemble et que tu n'as pas de porte de sortie, que tu ne peux pas respirer 5 minutes quand il y a, par exemple, bon, moi, souvent, il y a des repas à midi qui se passent. C'est un peu comme ma mère, c'est que les hautes conversations, les sujets qui fâchent ou qui réunissent ou tout ça, eh ben, ils permettent des fois d'avoir des échanges qui sont très intéressants, comme ils peuvent avoir des tensions qui s'installent dans les rapports entre les gens, même si les conversations se passent toujours en général très bien. Et c'est vrai qu'il y avait un moment où moi je me disais, ouais, les conversations, là, le ton, il monte trop haut, ça devient trop, bon, je dirais pas oppressant non plus, mais ça commençait à être vraiment quelque chose d'assez, avec quelques, ouais, quand même pas mal de tensions. Et moi, je pensais que ça avait vraiment de l'impact sur le quotidien. Et ça en a, mais on fait quand même dans le principe du projet, on fait gaffe quand même à essayer d'avoir une certaine forme d'intimité. Et puis après, ouais, il y a toujours le partage qui fait que bah, moi, ça m'intéresse. En fait, quand je savais pas ma position par rapport au collectif, je me demandais, est-ce que ce partage, il va être réel, ou est-ce que c'est juste parce qu'on dit, bon, on est en collectif, donc on travaille ensemble, on fait la bouffe ensemble, on mange ensemble, et puis bah, on partage les frais financiers ensemble. Il y a ça, il y a cette part-là. Bah, après, il y a les relations humaines, il y a le rapport que tu peux avoir avec les autres. Bon, il y a eu tous les projets, les maisons qui ont été construites, toutes les personnes qui sont passées ici avec les portes ouvertes, avec l'alter village d'attaque, tout ça. Et c'est en ça que ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, je ne dis pas que je le vivrai jusqu'à la fin de ma vie, quoi, mais c'est... Ouais, si, quand même, c'est quelque chose que j'ai réussi à comprendre que ça me correspondait plus que ce que je pensais avant.
Cette mixité que vous aviez souhaitée, mixité de génération, mixité d'origine, de métier, à vivre, comment est-ce que... Qu'est-ce que ça vous apporte? Pas comment ça se passe, mais qu'est-ce que vous y puisez?
Ben on y puise le contact avec des mondes qui sont différents. Disons que j'avais vécu pendant toute ma carrière professionnelle dans un milieu de professeur. Donc je travaillais dans des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs, donc un milieu très particulier et fermé finalement. Et puis là, bah, je suis en contact avec des gens dont certains sont issus du milieu du monde ouvrier, avec des réflexions, des modes d'approche des réalités qui sont complètement différentes, moins intellectuelles, plus pratiques. Donc il y a un enrichissement, je pense, à travers ça. Et c'est essentiellement ça l'important. Et puis le fait d'avoir une diversité également d'âge fait que la même chose, on a accès à des modes de réflexion qui sont différents. Quand ils écoutent de la musique, ben, c'est pas la musique que j'écoutais moi. Quand ils raisonnent sur l'avenir, ça n'est pas la réflexion que je peux faire moi. Et c'est différent de ce que l'on a avec ses enfants, parce que ses enfants, ils ont l'âge de mes enfants, pour beaucoup, mais ce sont des adultes, quoi. Donc c'est assez curieux, quoi, comme façon de faire.
Vous dites curieux, mais avec un sourire.
Ah oui. Non, c'est plaisant, c'est vrai. C'est plaisant. Mais ça demande quand même la capacité d'accepter, je veux dire, cette différence. Et d'une certaine façon, donc, de relativiser mon expérience, de ne pas considérer que c'est elle qui a raison et que, manifestement, ils vivent autre chose et il faut pouvoir aimer cette autre chose, quoi.
C'est d'autant moins facile, Alain d'Orange, qu'on est dans une société qui segmente énormément les générations, les classes d'âge.
Oui, ce que l'on dit beaucoup, c'est que les jeunes, actuellement, sont plus élevés par leur père, mais par leur père... PIRS, et que le fonctionnement tribal, disons, est une des caractéristiques de ce que l'on trouve actuellement dans notre société, oui, parmi les jeunes.
Charlotte Berthoud, quand vous étiez à Paris, vous avez longuement travaillé dans une association ?
Oui, aux Amis de la Terre, pendant 9 mois, où j'ai travaillé sur la campagne banque. On a lancé cette campagne, en fait, pour un peu faire prendre conscience de l'impact que les banques avaient sur le changement climatique par leur activité et par leur financement. Et par la suite, j'ai continué dans cette association sur une campagne sur les rénovations dans l'habitat pour qu'ils soient moins gaspilleurs d'énergie.
Et vous voilà dans le Limousin, dans cet éco-hameau de Busset. Vous allez bientôt avoir un enfant, donc pour l'instant, vous attendez cet enfant, mais vous êtes aussi devenue boulangère et vous voulez devenir paysanne boulangère.
Voilà, donc je voulais vivre en milieu rural et puis... On s'est baladé avec mon compagnon un peu partout et ici on est allé voir des amis et j'ai eu l'opportunité de remplacer une amie qui était paysanne boulangère elle-même et qui s'arrêtait pour faire un enfant aussi. Et donc elle m'a appris le métier, elle m'a appris à faire du pain au levain et voilà, donc il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai découvert ce hameau aussi, le hameau de Busset. Et j'ai eu l'occasion de me lancer. Les voisins m'ont prêté des terres pour planter du blé. J'ai eu l'opportunité de partager un fournil avec d'autres boulangers, de me tester en fait. Ça a fait le déclic, j'ai vu que ça correspondait finalement à ce que je recherchais. Bon, même si je ne suis pas complètement en cohérence encore avec mes idées, qu'on est toujours en recherche. Mais ici, il y avait des gens, on a un collectif. Il y a de l'entraide, il y a de l'intergénérationnel et il y a la possibilité de se tester en fait sur différentes activités sans être tout de suite obligé de prendre d'énormes responsabilités, d'énormes risques. Et en étant jeune, ça a compté en fait. C'est que j'avais possibilité d'avoir accès à 3 hectares, j'avais possibilité de construire une maison en paille sans devoir m'endetter pour acheter un terrain. Plein de petites choses comme ça qui font que ça correspondait finalement à ce que j'ai recherché.
Et le pain ?
Moi, j'aime bien, en faisant le pain, en fait, ce que j'aime, c'est que déjà, c'est une activité qui a du sens. Concrètement, je nourris des gens. L'autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que le côté artisanal fait que c'est chaque fois un petit peu différent et chaque fois identique. On essaye toujours d'améliorer la pratique. Et enfin, c'est simple, c'est très simple. C'est de l'eau, du sel, de la farine. Et c'est extrêmement complexe, en fait. Il faut maîtriser beaucoup de paramètres, la chaleur, l'humidité, la température du four. Donc, il y a de quoi passer sa vie, en fait, à faire du pain. En découvrant toujours des nouveaux aspects, en ayant toujours des choses différentes à apprendre et à améliorer. Donc finalement, je pense que c'est une activité qui me correspond assez.
Voilà, vous pouvez télécharger cette émission pendant 2 semaines sur notre site franceculture.com et puis consulter notre revue de web hebdomadaire. Notre téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre qui vous est proposée par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.